Pavillon Nomade, le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Pavillon Nomade, c'est la radio de celles et ceux qui ont envie de partager un moment de leur vie. Aujourd'hui, on accueille autour de la table du studio Drissa, Suzanne, Drita, Irène, Elvio, Marine, Eliane. Bonjour à vous toutes et tous. Et bonjour à nos complices Dominique et Julien à la technique. Et cet après-midi, nous accueillons Henri-Pia Galetti. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre autour de la table de Pavillon Nomade. Pavillon Nomade est en direct sur le site www.pavillonnomade.ch. Et aujourd'hui, grande première, on inaugure le chat. Donc si vous avez envie de poser une question ou de partager une réflexion, soyez les bienvenus. C'est Elvio qui va prendre connaissance de tout ceci. On va donc faire connaissance durant une heure avec vous, Henri-Pia Galetti. Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est que vous êtes un enfant de Montais.
Pur sucre. Pur sucre, bourgeois de Colombey et habitant de Montais, né, élevé à Montais d'un papa médecin à Montais qui, s'il avait eu l'occasion de prolonger ses spécialisations, ce qui n'a pas été le cas parce que son père à lui, médecin déjà, est décédé prématurément. Il a dû faire bouillir la marmite parce qu'il y avait trois sœurs et frères qui étaient aussi en études après. S'il n'avait pas été arrêté, il serait probablement devenu psychiatre.
D'accord. Si je vous demande un souvenir de votre enfance à Montais, lequel avez-vous envie de partager ?
Une enfance absolument heureuse. Le souvenir d'une petite ville qui faisait à peine 12 000 habitants quand je suis né. Le fait de courir toujours en retard pour arriver à l'école, au nouveau collège la plupart du temps. J'ai été aussi chez les nonnes. J'ai encore vécu sœur Saint-Jean et sœur Saint-Alphonse au pensionnat ici. Dans mes années enfantines. Et puis, le fait de m'être fait attraper une fois quand je descendais à vélo la rue du collège, arrêté par un policier de la police communale qui m'a fait copier 100 fois « Je ne dois pas rouler à vélo dans la rue du collège », ce que j'ai fait pendant les vacances de Pâques.
Vous qui êtes autour de la table, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance que vous avez envie de nous partager, éventuellement ? Suzanne.
Moi, je me souviens que mon frère, il faisait des catapultes et il avait, avec du noisetier, et il avait des petits bouts de fil de fer enrobés de plastique. Il les mettait comme en U et puis il tirait les oiseaux. Et ma sœur, elle portait des belles tresses et moi, j'avais toujours les cheveux coupés très, très courts. Et mon frère cadet, il portait des culottes courtes. Voilà.
C'est un souvenir d'enfance. Quelqu'un d'autre, peut-être ? Vous avez évoqué votre papa qui serait devenu psychiatre si la ville lui avait permis. Ici, nous sommes à Malévaux. Malévaux qui accueille tous les jeudis Pavillon Nomade. Donc, on peut bien penser que Malévaux ne vous est pas totalement inconnu, cet hôpital qui domine la ville de Montais.
Bien au contraire, c'est un lieu connu de absolument tous les Montaisans. Tout le monde sait qu'il y a l'hôpital au virage. C'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais petit, hein, c'est l'hôpital au virage. Et même si je ne l'ai pas fréquenté, je dois dire que j'y suis maintenant plus depuis quelques années en raison de ce quartier culturel qui s'est créé, en raison des belles manifestations qui s'y déroulent. Un lieu paisible, un lieu incroyable, dans lequel on ne va pas naturellement. Et puis, qui, une fois qu'il a été ouvert comme ça, se révèle être extrêmement paisible et accueillant.
Oui, et c'est le temps de la châtaigne, ces jours, et c'est très agréable de se promener dans le parc et de ramasser. Il n'y en a plus beaucoup. J'avertis déjà celles et ceux qui pensaient pouvoir venir à Malévaux ramasser des châtaignes dans le parc, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a toujours les cosses qui sont là, et c'est magnifique de voir ça. Vous l'avez dit, Henri-Pia Galetti, c'est un quartier culturel aussi, ici à Malévaux, avec un théâtre, une galerie d'art, un jardin, une résidence d'artistes et une radio. Ici, à Pavillon Nomade, tout le monde a la parole, et donc peut partager ce dont il a envie. Et évidemment, vous qui êtes présents ici autour de la table, vous pouvez poser des questions à Henri-Pia Galetti. libre à lui d'y répondre ou pas, et libre à lui aussi de vous poser des questions. C'est un espace de liberté. Demain, vendredi, la foire du Valais, ou le comptoir pour les plus anciens dont je suis, ouvre ses portes à Martigny. Et parmi les hôtes d'honneur, eh bien, il y a la région Dents du Midi que vous présidez, Henri-Pierre Galetti. Les Dents du Midi, c'est un cadre naturel spectaculaire. Et je ne me trompe pas trop en disant que c'est un joyau des Alpes. C'est une bonne promotion.
Ah, c'est une belle promotion, mais elle est naturelle et elle est méritée. En fait, si vous posez la question à un Genevois ou à un Bernois, quelles sont les montagnes du Valais visuellement les plus marquantes ? Vous aurez à peu près invariablement en première position le Matterhorn, le Cervin, et puis en deuxième position, les Dents du Midi. Pour une raison assez simple, c'est que elles sortent du lot en termes esthétiques. Elles sortent du lot alors que d'autres très belles et grandes montagnes valaisannes, le Weisshorn ou la Dent Blanche ou la Dent des Reins, qui sont toutes magnifiques, je fais de la montagne, je les aime beaucoup aussi, celles-ci, c'est plus difficile de les dessiner. Tandis que les Dents du Midi, tout le monde sait en gros à quoi elles correspondent et où elles se trouvent, ce d'autant que certains artistes, notamment Baudelaire ou d'autres peintres, les ont beaucoup peintes, par exemple, depuis Montreux. Donc oui, c'est une grande marque. Et puis, je ne vous cache pas que mon amour immodéré pour les montagnes s'est traduit sur un bras.
Alors oui, on voit un tatouage.
D'un côté, le Cervin, et juste à côté, les Dents du Midi à l'échelle.
Voilà. Magnifique. Hein. Suzanne.
Vous avez oublié la dent de Morcle. On la voit partout.
J'aurais dû la citer. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens une fois en rentrant... du travail de Genève, il y avait un groupe de Japonais qui était dans le train. Et puis je montais jusqu'à Martigny. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se tourne et puis qui regarde là-haut et qui dit « Oh, Matterhorn, Matterhorn !» C'était en fait la dent de Morcle. Et c'est un... Ben, j'y étais le week-end passé. Voilà.
Il y a 7 sommets emblématiques. La cime de l'Est, la forteresse, la cathédrale, l'éperon, la dent jaune, les doigts et la haute cime. Ils sont tous... à plus de 3000 mètres, combien en avez-vous gravi ?
2.
Lesquels ?
2, la haute cime et la cime de l'Est. Mais la haute cime, alors souvent, vraiment souvent. C'est une fois par année, en tout cas. Ouais.
Alors, ils disent que pour la haute cime, par exemple... Non, c'était plutôt pour la cime de l'Est. J'ai un peu regardé l'histoire. Et c'est vrai que c'est au XVIIIe siècle qu'ont eu lieu les premières ascensions des Dents du Midi. Et la plus coriace, c'est la cime de l'Est à cette époque. Et chaque fois que quelqu'un arrivait à son sommet, les cloches de l'église de Salvan sonnaient. Ils ont très vite arrêté dès le XXe siècle parce qu'effectivement, il y avait trop de monde qui arrivait à son sommet.
Je ne connaissais pas l'histoire, mais il faut reconnaître une chose, hein, c'est qu'au-delà de la beauté de cette chaîne de montagnes, l'intérêt de les gravir est relativement modeste quand même. Le rocher est assez friable et c'est vrai qu'on est vraiment sur la porte des Alpes et pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer, il y a différentes couches de roches et des types de roches différentes et la limite de ces roches friables, c'est justement les Dents du Midi, juste derrière. Quand vous arrivez, dès que vous arrivez de l'autre côté du lac de Salanf, vous trouvez une roche beaucoup plus granitique qui est plus intéressante à grimper. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, par exemple, je ne les ai pas toutes faites parce que c'est d'un intérêt relatif. Mais si vous allez plus loin, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà.
Est-ce que quelqu'un fait de la montagne autour de la table ? Elvio ?
Énormément. Donc, c'est vrai que j'ai malheureusement jamais fait la cime de l'Est, mais chaque année, la haute cime, elle fait normalement partie, ainsi que le Tour des Dents du Midi, du classique depuis des années. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'il y a de magnifique, comme l'a expliqué Henri-Pierre, c'est que en faisant par exemple le Tour des Dents du Midi, on a à chaque fois. Un paysage, une roche, on passe à chaque étape par des paysages qui sont hallucinants, absolument merveilleux. Il y a des petits défis comme ça avec des chaînes. Il y a vraiment de tout. C'est une montagne qui est très intéressante parce que justement, elle est diversifiée. Elle est diversifiée.
Suzanne.
Moi, j'ai fait beaucoup de montagnes entre 25 et 30 ans. Et je faisais les cabanes de club alpin, je faisais les glaciers, même au printemps. Par exemple, on changeait de chaussures, les moon boots, on avait les moon boots, on traversait la neige. Et puis après, on mettait les chaussures, les autres chaussures. On avait piolet, la corde et tout. Voilà.
Quelqu'un d'autre ? Oui, Dricia. Il faut prendre le micro.
Moi, j'ai fait les montagnes au Maroc. C'était trop joli parce qu'on montait avec les vaches, avec les chèvres. On faisait toute la marche en montagne avec les chèvres et les moutons. Puis c'était trop joli. En même temps, c'était de la marche. Et en même temps, on prenait les vaches et les moutons. Ils se promènent avec nous. Et puis, on se découvre pas mal des choses aussi. Et puis, c'était trop, trop bien. Et je trouvais que c'est trop joli, trop magnifique.
Oui, et puis avec des paysages superbes. On peut bien imaginer, oui. Effectivement.
Oui, exactement.
Il y a de la neige aussi sur les montagnes marocaines.
Oui, sur l'Atlas, oui, il y a de la neige. Oui, il y a beaucoup de
neige. Ça monte à 4000, hein. Ça monte à 4000.
Voilà, exactement.
Encore plus haut que les sommets du Dent du Midi.
Absolument.
Oui, exactement.
Drita, vous avez envie de partager quelque chose à propos de la montagne ? Oui, Eliane.
Moi, je vis à la montagne toute l'année. Donc, malgré moi, oui, je fais des balades en montagne.
La montagne, les Dents du Midi, c'est un vaste domaine qu'il faut bien évidemment découvrir ou redécouvrir, notamment en allant à la Foire du Valais qui ouvre ses portes demain. Qu'est-ce que vous allez mettre en valeur durant cette Foire du Valais, Henri-Pierre Galetti ? À part les montagnes.
Oui, à part les montagnes. Vous savez, la Foire du Valais s'adresse entre autres aux Valaisans, mais pas que. Ça, c'est la raison officielle et principale de notre présence, c'est que à peu près 40% des visiteurs sont des non-valaisans. Donc, c'est potentiellement une population intéressée par notre offre touristique régionale, par les portes du soleil, par le ski, par le VTT, par la randonnée, par tous ces éléments-là. Ça, c'est la raison première et officielle. Et puis ensuite, il y a une raison qui n'est pas anodine, qui est celle de l'intégration à tout ce qui compose le Valais. Les Valaisans autour de cette table comprendront ce que je veux dire quand le Montaisan que je suis a tendance à dire oh, on est parfois un peu les oubliés du Valais central. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai en ce sens qu'on est un petit peu loin, effectivement, et que nos regards, naturellement, ont plutôt tendance à se porter en direction du lac Léman. Ça, c'est vrai. Et ce qui n'est pas vrai non plus, c'est qu'en fait, c'est aussi à nous de faire l'effort de nous faire connaître au Valais central et au Valais. Et on ne l'a pas toujours fait de manière adéquate. Et c'est précisément avec cette idée-là en tête de dire il y a quelque chose qui se passe au-delà du défilé de Saint-Maurice. Il y a de très belles montagnes, de très belles pistes. Ça, ils le savent à peu près. Hein. On a quand même le plus grand domaine skiable, notamment du Valais, mais aussi du monde, international en tout cas. Donc, c'est le moment de se faire un peu plus connaître ou reconnaître en tant que tel. Et on se présente avec fierté auprès de nos amis du Valais central et du Haut-Valais.
Vous allez nous emmener dans un instant faire une balade, si vous êtes d'accord, dans les Dents du Midi. Vous choisirez un village ou un endroit où vous avez envie de nous emmener. On va faire une première pause musicale. Et j'ai choisi Emeline qui nous offre cette chanson douce à l'aube.
Dans l'aube qui pâlit les bois, murmure tes îles. un matin sans fin, sans midi, sans soir. C'est une beauté reflétée par son miroir. Ce grand ciel qui vole en éclats et qui s'éveille.
On s'imagine sur les hauts sommets des Dents du Midi à l'aube, comme le chante si joliment Emeline, d'origine valaisanne. Des Dents du Midi qui sont à l'honneur de la 65e édition de la Foire du Valais qui démarre demain et nous recevons cet après-midi à Pavillon Nomade Henri-Pierre Galetti, président de la RDDM, région Dents du Midi. Alors je l'ai dit, on va partir, vous allez nous emmener Henri-Pierre, mais j'avais d'abord envie de poser la question à Dricia, puisqu'elle nous a parlé des montagnes marocaines. S'il fallait nous emmener là maintenant quelque part, on irait où avec vous, Dricia?
On peut y aller à... on peut y aller vers Meknès, les régions de Meknès. La ville s'appelle Tezza. Donc, Tezza, il est plein de montagnes, c'est tout en montagne, c'est la même chose à peu près comme ici. Et puis, c'est une belle ville, et puis il n'y a que des montagnes ou quoi. C'est magnifique. Mais c'est une ville qui s'appelle Tezza.
Tezza, ça nous fait rêver, non? On est déjà un petit peu parti ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Irène?
On pense toujours d'aller ailleurs. On a tellement de choses chez nous. Par exemple, moi, je suis née en plaine et je me suis mariée en montagne. Et puis chez nous, ce qu'on a porté énormément de temps, c'est la vigne, le vin, faire du vin, vendre des bouteilles. C'était tout un art de vie. Et puis, on ne pouvait pas comparer avec quelqu'un d'autre. Ceux qui étaient en ville, ils avaient leur ville et leurs affaires. Mais c'était, moi, je trouve, incomparable. Puis quand je vois votre tableau là derrière...
Oui, il faut juste expliquer aux auditeurs qu'on a une magnifique œuvre, un tableau très grand derrière nous. Enfin, derrière nous, au studio. Mais pour ceux qui sont en face, ils le voient de face. Moi, je le vois pas de dos, en fait. Il est dans mon dos. Et c'est un artiste... cubain qui a fait cette œuvre. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette œuvre alors?
Moi je vois tout ce qui existe chez Favre. Hein.
Il y a le logo, ce que vous nous avez fait remarquer.
Favre, il y a la bouteille, il y a le jambon, il y a les châteaux. Et il y a même la vache des reins.
C'est tout le Valais, c'est ça?
Ouais.
Même le triboulet de Montaigne.
Ouais, il y a le fromage et puis les moutons.
Oui, il faut me décrire parce que moi, je ne le vois pas. Je tourne le dos, donc dites-moi.
En tout cas, il y a des châteaux. Et puis, ce qui est très renommé chez nous, c'est la vache des reins pour sa lutte. Et puis, son triomphe qu'il y a toujours. Mais pour le reste, je passe la parole à celui qui arrive à plus parler que moi.
Mais moi, je vois un chien du Saint-Bernard. Je vois du jambon, je vois les armoiries montaisannes, le chêne, je vois tourbillon, je vois une bouteille de pinard.
Oui, on a tous les symboles
voilà,
du Valais.
On a tous les symboles.
On est d'accord.
Il y a même un nez noir.
Bon, revenons à vous, Henri-Pierre Galetti. Vous nous emmenez où, alors?
Vous voulez que je choisisse un lieu?
Oui, s'il vous plaît. De la région. Ouais.
Entre plusieurs, mon cœur balance. Mais
j'imagine.
Si je devais vous parler, alors, je parle encore 30 secondes d'une montagne. C'est la première que j'ai vraiment escaladée. J'avais à peine 14 ans. Je l'ai fait avec un enfant de montée également, qui était un peu plus âgé que moi, le regretté Philippe Pétain. Certains s'en souviennent certainement. C'était un guide brillant qui s'est malheureusement tué dans l'Himalaya. Je l'avais fait à 14 ans. J'ai fait le Ruan. J'ai fait la traversée des Ruans à 14 ans. C'était un joli exploit pour cet âge-là. Moi, c'est resté comme une marque de déclenchement électrique de l'amour de la montagne quand j'ai fait ça. Puis, sur l'endroit lui-même, je dois vous dire que c'est mon chalet. C'est mon chalet. J'ai la chance d'avoir hérité d'un chalet familial, un tout petit chalet à Mazo, qui est tout au fond du vallon de Champéry, pas très loin de la frontière française du col de Coux. C'est un peu sous Planachaud, si vous voulez. C'est un endroit perdu. C'est un endroit où j'ai passé une enfance exceptionnelle et puis où je passe encore des moments fantastiques, loin de tout, avec les vaches qui montent à la fin du printemps et qui redescendent à l'automne et qui viennent brouter tout autour et qui fabriquent, qui aident à produire un lait assez exceptionnel qui est mis en fromage et en meule par l'alpage du pont, par Alexis, qui est devenu champion du monde de raclette l'année passée.
On va en parler de la raclette dans un instant. Oui, Suzanne.
Votre lait, il ne vaudra pas celui de la Gruyère.
Ah, alors si on va concurrencer les régions, là, on est mal barré. Oui, Elvio.
Oui, j'aimerais aussi rendre hommage aux Dents Blanches. Parce que ça fait partie de la région aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Tout Barmes aussi, donc le site de Barmes, le centre ornithologique.
Le Bretolet.
La pointe de l'eau et tout, le Chaiserie, le lac vert. En fait, il y a vraiment... moi, je viens du coin aussi, donc du coup, c'est des endroits qui... Chaque année, je suis obligé d'y retourner. Chaque année, ça me ressource. J'ai des souvenirs extraordinaires et j'invite aussi les gens à aller un petit peu plus loin là-bas.
Est-ce qu'il y a des coins, des endroits où vous vous ressourcez? Irène nous a parlé de la vigne, Edricia nous a parlé aussi des montagnes. Drita, est-ce qu'il y a des coins où vous êtes bien? Lesquels, par exemple? Vous avez envie de nous partager? Non? Pas trop? Ok. Irène? Qu'est-ce que vous diriez, à part la vigne?
On est bien, comme maintenant, on est bien. C'est un bon petit moment qu'on passe.
L'instant présent.
Un instant présent. Mm-hmm. Mais on n'a peut-être pas assez la tchatche. Comme vous, vous avez peut-être plus l'habitude.
Mais ce n'est pas moi qui suis importante, c'est vous. C'est vous ce que vous avez envie de partager avec nous. Eliane, vous avez un endroit où vous aimez bien être? Dans votre chalet, vous allez me répondre.
Voilà, exactement. Et le trophée du Muvran qu'on a chaque année. Et oui, moi j'aime particulièrement le miroir de l'Argentine, enfin, toute la cabane Rambert, depuis le pont de Nantes. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que chaque année, au printemps, quand il n'y a plus de neige, j'y vais très très volontiers.
Comment se passe, comment est-ce qu'on veille à protéger un site naturel comme les Dents du Midi? On peut imaginer que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Comment se passe la protection environnementale?
C'est un vaste sujet. Les Dents du Midi, elles ont deux faces. Hein. Elles ont aussi la face du côté de Salvan et des Marécottes. Et d'ailleurs, cette zone-là, ce côté sud, des Dents du Midi est désormais site classé patrimoine de l'UNESCO. C'est le site du Trien. C'est déjà le cas. Ils ont été homologués, entre guillemets, il y a de ça relativement peu de temps. Et je dois dire que c'est une source d'inspiration de notre côté, du côté de la vallée d'Illier, en ce sens que autant cette région a besoin de se développer dans son tourisme, parce que c'est de ça que vivent une bonne partie de la population, autant il est nécessaire de garder des zones inviolées. Et dans le cadre du développement, c'est un long travail qu'on a mené ces deux dernières années qui s'appelle la vision stratégique régionale à l'échelle 2050. On a pondu un papier avec des ateliers participatifs de toutes les personnes de la région qui le souhaitaient. On a pondu une résolution signée par l'ensemble des grands acteurs qui dit, en gros, la rive droite de la Vièze est une zone de nature. La rive gauche est une zone qui est plus utilisée pour l'activité touristique, pour faire du vélo, pour faire de la rando, pour faire du ski, différentes activités qui nécessitent quand même un impact aussi faible soit-il sur la nature. Mais la rive droite, je doute qu'un jour on voit un téléphérique se créer pour monter jusqu'à la haute cime, par exemple. Ça, j'en doute vraiment très fortement, parce que il faut garder cette nature préservée telle qu'elle est maintenant. Et il me semble que c'est une approche qui fait sens. Ce n'est pas mon idée, hein, c'est vraiment celle de toute une population qui a réfléchi à ça. Et je pense qu'il y a un accord de principe sur cette vision-là.
Et une volonté aussi de garder cette nature tellement spectaculaire.
Mais parce que c'est la base de notre vie, c'est la base de la beauté de cette région, c'est notre fonds de commerce. Cette nature inviolée. Donc, si on veut la toucher complètement et la dénaturer, bon, ben moi, je dirais autant aller à Dubaï, quoi.
Suzanne.
Moi, je trouve franchement que le vélo, il est beaucoup plus praticable à plat, à Colombey ou à Monté. Parce que vraiment, dans la vallée, non merci.
Ah bon, ça dépend des muscles que l'on a au mollet, bien évidemment.
Et n'oubliez pas que la fée électrique est aussi passée par là depuis maintenant de nombreuses années et que beaucoup de ces vélos qui se baladent en montagne sont toujours aujourd'hui des vélos électriques.
Les Dents du Midi, c'est une région, c'est un canton qui accueille généreusement le visiteur, souvent autour de l'apéro, mais aussi autour de mets divers et variés. Vous avez évoqué la raclette. On va en parler dans quelques instants, mais je peux déjà dire que les championnats mondiaux de la raclette auront lieu à Morgin les 24, 25, 26 octobre. Et vous êtes bien concernés par ce championnat, Henri Pierre Galetti. Je pense que c'est l'événement à ne pas manquer avec la Foire du Valais, bien évidemment. Et je vous propose qu'on en parle après cette chanson.
Il y a Nadine Arcorbeau, il y a mangé tout le fromage. Renard n'est qu'un tocard, un zonard, un minable, une baltringue, un naze, un faiblard, un brigand, une petite frappe, un petit salopard, il taffe au black. Dans une tanière du boulevard, maître Corbeau, star à gronde, perché en costard, fait partie de la haute zarma, il fume son cigare, il est actionnaire de la grosse tanière, madame Corbeau. En est la riche héritière, maître Renard, vénère en galère de champ art, il a même plus. Un gémant dans le placard, il déprime avec son pétard et son pinard en attendant qu'il arrive le grand soir. Maître Corbeau aime les euros, les restos, les vacances. À l'œil sur le yacht de son poteau, il a du goût, le salaud, du standing et de la classe. Lui ne partage qu'avec ceux de sa race, maître Renard. Et sur la paille n'a plus un dard, maître Corbeau. Toujours tranquille, toujours peinard, maître Renard. Risque de faire une connerie, se faire un sarcorbeau en michoui à midi.
Si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau était tout de noir vêtu, on ne voyait que ses yeux dépassés de son plumage. Et voilà que débarque le renard. Ouais, c'est bon, enlève ta bourque, barco. Wesh, tu croyais pouvoir passer incognito? T'es pas un corbeau, tu serais plutôt dans le genre pivoleuse. Ce fromage n'est pas le tien, c'est au peuple des renards qu'il appartient. Faudrait que tu rentres ton butin. Bah tiens, trop c'est trop, maître corbeau, furax, passe un coup de picot. Et voilà que les chiens policiers débarquent aussitôt. Une horde de molosses dans le genre berger allemand encercle et bastonne le renard jusqu'à lui faire perdre toutes ses dents. Le corbeau est fier de lui.
Ah, je suis vraiment trop fort, c'est vrai, j'avoue, rien à dire, je suis le boss. Toutes les meufs me kiffent, normal. J'ai trop de style, trop de classe, trop de flow quand je me pointe quelque part.
C'est chaud.
Face à tant de vanité, le renard a compris que c'était l'occasion rêvée pour récupérer le fromage sacré. Votre majesté, votre jour de gloire est arrivé. Et ce jour, il faut qu'on l'immortalise.
Oui.
Une photo, oh, excellente idée. Souriez à pleines dents et dites cheese.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Il était une fois, hey, y a pas si longtemps, des renards fatigués, mais pas si méchants, fatigués de voir les corbeaux prendre les décisions et courir pour pouvoir nourrir tous leurs rejetons. Quoi qu'ils fassent, y a pas tout le temps, y a pas le bonheur, y a pas le beurre et la farine, y a pas. Mais franchement, y a pas à applaudir qu'à la maigreur de leur bonheur prenait de l'ampleur de pire en pire. Leurs yeux devenaient fous et leurs crocs luisaient la bave. Ils avaient décidé de prendre un corbeau en otage. 14 jours à peu près de séquestration, ils l'ont lâché avec des plumes en moins sur le plastron, ce qui déclencha la fureur du conseil Corbuec. Il y eut des représailles terribles et sans finesse, et ceux d'entre eux qui réussirent à s'échapper du mur sans porte vivent sous terre. Ils vivent bien cachés, mais on dit qu'un jour sortit une prophétie qui aurait dit qu'un renard sans haine et son fusil rétablirait à lui seul l'honneur de tous les renardos de la fontaine.
Quand même, hein, ça serait bien quand même, hein.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Ah, c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
Une fable bien connue, revue de manière actuelle par HK du fromage. Vous allez en partager Henri-Pierre Galetti durant les championnats mondiaux de la raclette qui se tiendront les 24, 25 et 26 octobre à Morgin. On va faire un rapide tour de table. Qui n'aime pas la raclette ? Personne. Qui aime bien la raclette ? Tout le monde. Et maintenant, pourquoi vous aimez la raclette, Eliane ?
Alors, ce que je préfère dans la raclette, c'est les pommes de terre. Donc, j'en fais une consommation assez élevée. Et puis, la raclette, il me faut des patates, de la mayonnaise, de l'aromate. Et puis, comme ça, c'est trop bon. Alors, si quand je suis invitée pour manger de la raclette, je prends toujours la mayonnaise et l'aromate avec moi.
D'accord. Dricia, vous, comment est-ce que vous mangez la raclette ?
Moi, la même chose. Je prends la moutarde avec moi.
D'accord.
Pour manger la raclette, je trouve que c'est très, très bon du Valais. Je trouve qu'il est... J'attends vraiment que ça vienne à la période pour manger.
Okay.
C'est vraiment... j'aime beaucoup.
Irène ?
Alors, moi, j'aime bien la raclette avec les virgules. Et comme accompagnement,
La viande séchée ?
La viande séchée, pas forcément. Mais la courgette à l'aigre doux.
Ah oui, ça c'est
la courgette au curry, ouais. Accompagnée.
Que vous faites vous-même ?
Oui, que je fais moi-même, ouais. Mais c'est vraiment délicieux.
Henri-Pierre.
Oui, alors, il y a du boulot d'éducation, là, après avoir entendu ce que j'ai entendu. La raclette, telle qu'on l'imagine dans des championnats du monde de la raclette, c'est la raclette à la valaisanne, c'est-à-dire on se concentre sur le fromage. Et tout le reste n'est que garniture. La raison d'existence de ces championnats du monde, c'est tout récent, hein, C'est parti d'une affaire qui n'a strictement rien à voir avec le fromage au départ. C'est parti d'un apéro, une petite tarvine, un deuxième verre, deuxième bouteille. Et puis avec des amis, on s'est dit, on a besoin, en tant que régent touristique, de créer un événement récurrent qui revient chaque année ou chaque deux ans, quelque part sur l'arrière-automne, parce qu'il est extrêmement difficile d'attirer du monde à la montagne à fin septembre, octobre. C'est difficile et pourtant, on aimerait bien accueillir du monde parce qu'on en a besoin, on aimerait faire tourner nos restaurants, etc. Et puis une fois, tout d'un moment, quelqu'un a dit, mais il y a bien le mondial de la fondue. Est-ce que le mondial de la raclette existe? Puis on a regardé, on a vérifié, puis on s'est dit, non, ça n'existe pas. Ben, une bonne idée était née. Alors, on a réuni 5-6 personnes, des têtes bien faites, dans cette vallée du monde agricole, du monde touristique, du monde du marketing, comme ça, du monde de l'événementiel, en se disant, ça serait quoi le format? Ça serait quoi le truc? Puis, on a dessiné les grandes lignes de ce que pourrait être un championnat du monde qui ne soit pas juste une énième fête de la raclette, parce qu'il y en a plein, il y en a partout, en Valais et ailleurs, mais qui soit vraiment... qui porte son nom avec fierté, c'est un championnat, donc il y a un concours, et puis il y a des meilleurs et des médailles d'or qui vont être distribuées. Et puis, après 6 réunions, on a fait une belle fête, c'était, je m'en souviens, à l'alpage de Chanceau, chez la famille de Jojo et Dubosson, et de ses filles, Isabelle et Aline. Et puis, on a dit, bah, maintenant, on peut boire l'apéro, on peut manger quelque chose, et puis on va transmettre le flambeau à un comité d'organisation qui va créer, sur la base de l'idée qu'on s'était faite, les championnats du monde. Et puis, ça a eu lieu en 2023 pour la première fois, hein, c'est tout récent. Et c'est parti comme ça. On n'avait aucune idée de où on allait atterrir. Hein. On a pris des risques, on a pris beaucoup de risques. Puis, il s'avère que, bah, y a plus de 12 000 personnes qui sont venues en un week-end. Voilà.
Alors, on va en parler parce que je suis très curieuse de savoir quel pays participe. Mais on va finir le tour de table autour de la raclette. Suzanne, vous la mangez avec quoi, la raclette?
Alors, moi, je la mange avec des pommes de terre que je pèle pas forcément. Nouvelles ou pas. Et je mets des tranches de tomates. Je mets des petits oignons, des cornichons, des petites chanterelles au vinaigre. Et puis un plat de viande séchée ou de charcuterie.
Très bien. Elvio.
Ouais, ben c'est assez atypique. Hein. Donc j'adore la raclette classique.
De quoi faire bondir Henri Pierre.
Voilà, non, mais j'aime beaucoup la raclette classique. Mais c'est vrai que quand on la fait à la maison, des fois, j'aime bien les ailes d'épervier avec. Et puis des piments au vinaigre. Voilà, donc,
pas mal aussi. Drita, non? Marine, comment la raclette?
Alors moi, je ne suis pas valaisanne, je viens de la vallée de Joux, mais j'aime beaucoup la raclette. Je préfère la raclette à la fondue d'ailleurs. Et j'aime beaucoup, je ne sais même pas comment s'appelle l'appareil justement électrique qu'on utilise.
Le four à raclette.
Le four à raclette, mais vraiment le traditionnel où on peut racler après.
Où il y a la demi-meule.
C'est incomparable, en fait. La demi-meule, c'est incomparable. Et mais j'aime bien aussi mettre un peu de paprika dessus, j'avoue. Ouais.
Alors concrètement, ce que vous décrivez, en sachant pas exactement ce que c'est juste le four traditionnel. Et c'est le critère de base pour accepter un fromage comme concurrent au championnat du monde de la raclette. Il doit être en mesure de passer sous un four traditionnel valaisan. Le four que vous connaissez, qui est classique, en principe, c'est des demi-meules. On a fait quelques exceptions avec des fromages qui étaient plutôt carrés, mais il faut qu'à peu près leur largeur passe. Certains, on a même un peu taillé les bords pour arriver à le faire passer à l'intérieur. Mais le critère de base, c'est passer sous le four. On n'est pas en train de parler de raclonnette. On n'est pas en train de servir les petits trucs. Là, vous avez des Français qui ont fait un concours de la plus grande raclonnette du monde. Bon, on les a battus à plate couture au mois d'avril cette année en servant à près de 5000 convives au CERM, à Martigny, justement, au lieu de la Foire du Valais, parce qu'il fallait quand même un peu rétablir la vérité historique. Mais la raclette, c'est ça. Et puis peut-être pour aller un tout petit peu plus loin dans le... Dans
vous la... êtes chauvin ou quoi?
Non, je suis juste réaliste. La raclette, c'est AOP, c'est Valais. C'est juste ça. Mais en fait, quand je vous entendais décrire vos préférences d'accompagnement de raclette, ce qu'on essaie de faire avec des championnats du monde, c'est justement de dire ce fromage se suffit à lui-même. Au même titre que vous ne faites pas de la sangria avec un Château Lafite Rothschild, vous dites la sangria, c'est bon. Votre manière de manger la raclette est très bonne. Et puis, boire un Château Lafite Rothschild, ça se suffit à soi-même. Eh bien, les fromages à raclette, et en particulier les fromages à raclette d'alpage, ceux qui sont fabriqués sur l'Alpe pendant la belle saison, ce sont des fromages d'une extrême qualité qui sont difficiles à fabriquer parce que c'est pénible, cette vie d'agriculteur de montagne, et que cette qualité, ce dur labeur, mérite d'être valorisé. C'est ça la base de ce qu'on essaie d'essayer de faire comprendre, c'est déguster ce fromage pour ce qu'il est et pas pour ses accompagnements, parce que ce fromage est exceptionnel. Et selon la période de l'année, selon l'alpage que vous dégustez, le goût de cette raclette sera différent. Au même titre que, je parlais du Lafite Rothschild, bah, si vous prenez une Syrah du Valais, eh ben, ça ne sera pas la même chose. Et pourtant, les deux peuvent être très bons et on peut apprécier. Et ça, c'est un peu notre pari que de dire, maintenant, il y a raclette et il y a bonne raclette. Et c'est ce qu'on aimerait apprendre à un maximum de personnes, dire, faites la différence entre les deux, parce que ça en vaut la peine, il y a des perles à découvrir.
Alors, le temps passe très, très vite à Pavillon Nomade et j'ai encore quelques questions autour de la raclette parce que je suis très curieuse. Il y a combien de pays qui participent à ce championnat ?
Alors, la première année, en 2023, il y en avait 7. Et puis, cette année, il y en aura en tout cas 13, garantie. Plus de 150 fromages à déguster. Je ne vous raconte pas la logistique pour avoir suffisamment de membres du jury dégustateur parce que 150 raclettes, vous n'avez pas une seule personne qui fait ça toute seule. Et... En l'occurrence, vous avez des pays d'un peu partout. Cette année, on a réussi à avoir le Japon. On a réussi à avoir, évidemment, tous les pays qui nous entourent en fabrique. Hein, l'Autriche, l'Italie, la France, l'Allemagne. Même les cantons en dehors du Valais font de la bonne raclette.
C'est pas vrai.
Si, c'est possible. Si, c'est possible. Pour la petite histoire, l'année passée, dans la catégorie reine, qui est la catégorie fromage au lait cru alpage, la médaille d'argent a été remportée par un fromage français. Pas très éloigné, il vient de la vallée d'Aux, mais c'est un fromage français qui a pris cette deuxième place. Donc, en fait, c'est possible, même s'il est vrai que à l'aveugle, les fromages valaisans ont, en tout cas la première année, eu tendance à truster les premières places.
Ouais, d'ailleurs, il n'y a eu quasiment que des valaisans lors de la première année. Comment se déroule la compétition, en quelques mots ?
Alors, la compétition elle-même, le concours, vous avez deux niveaux de jury. Vous avez un jury d'amateurs éclairés, je dirais des gourmands, des gourmets. Ça peut être des patrons de bistrot, ça peut être des profs de cuisine, ça peut être des gens comme ça, qui sont une bonne cinquantaine et qui font dans chacune des cinq catégories. Hein, il y a cinq catégories, il y a fromage au lait cru d'alpage, il y a fromage au lait cru laiterie, fromage pasteurisé, donc cuit, avec du lait cuit. Vous avez ensuite aussi, nouveau cette année, des catégories de brebis, de lait de brebis et de lait de chèvre. Donc, dans chacune de ces catégories, vous avez des concurrents et ces fromages sont dégustés par ce jury d'amateurs éclairés qui détermine lesquels méritent d'aller en finale. Et à partir du moment où ces fromages sont en finale, vous avez un super jury qui est lui composé alors de dégustateurs professionnels. Vous avez que des très forts. Il y a deux meilleurs ouvriers de France. Vous avez un meilleur ouvrier de Belgique. Vous avez évidemment l'inénarrable Eddy Baïfar, qui est un immense spécialiste. Vous avez Roger Dubosson, qui est un des taxateurs du raclette AOP. Vous avez des gens de cette catégorie-là qui... eux dégustent évidemment à l'aveugle, hein, ils savent pas du tout quel fromage ils dégustent, et qui prennent les finalistes pour en faire un premier, un deuxième, un troisième.
Voilà. Oui, Barine.
Est-ce que c'est une étude randomisée en double aveugle, donc où les gens ne savent pas ce qu'ils dégustent, ou parce qu'il y a quand même un biais, j'imagine, culturel. Si on est valaisan, peut-être qu'on va avoir tendance à plus voter aussi pour des personnes qui sont valais.
Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été faire des cours d'œnologie à Changin, à la station œnologique de Changin. Et puis un jour, le chef dégustateur là-bas, Jean Crétenon à l'époque, nous avait dit « Maintenant, vous allez essayer de nous déterminer si le vin que vous buvez là, il est valaisan, vaudois ou genevois. » À chaque fois, c'était du chasselas, hein, du fendant, comme on dit chez nous. Et je peux vous dire qu'on était 60 à essayer. Et c'était à peu près impossible de déterminer si c'était plutôt du Valaisan, du Vaudois ou de Genevois, à partir du moment où il y avait de la qualité. C'est difficile à dire. Hein. Vous trouvez les spécificités d'un cépage. Ben pour un fromage, c'est la même chose. En fait, les montagnes n'ont pas de frontières et la qualité d'une production n'a pas de frontières non plus. Peut-être que nos fleurs sont plus belles dans la vallée d'Illier, c'est possible ou pas. J'ai dit ou pas. D'ailleurs, typiquement, on a parlé avant d'un autre fromage emblématique qui est le Gruyère, qui ne se fait pas qu'en Gruyère d'ailleurs, hein, qui se fait jusque dans le Jura et puis même jusque dans le Chablais vaudois. Mais typiquement, ça donne des goûts qui sont évolutifs. Et ce qu'il y a de génial, c'est que typiquement, en plus, ce fromage, il est vivant. Vous savez, on a introduit la semaine passée la première étiquette de goût sur les fromages de la région dans du Midi. C'est les fromages qui ont l'appellation saveur dans du Midi. On a réuni quelques-uns de ses meilleurs spécialistes pour déguster tous les fromages d'alpage du coin. Il y en avait 20. Et puis pour mettre un sticker dessus avec une gradation. Vous savez, un petit peu comme sur les capsules de café que tout le monde connaît, vous avez une gradation de 1 à 10. Maintenant, on a mis une gradation de 1 à 5 en termes d'intensité du fromage, de léger à corsé. Et puis, vous avez un petit code QR au milieu. Et puis, ce code QR, quand vous le flashez, ça vous donne toute l'historique, l'histoire de l'alpage qui a produit ça. C'est produit à telle altitude, il y a tant de vaches, voilà les particularités. Et c'est ça qui, en fait, fait la beauté de ce développement de produit. C'est véritablement de se dire, mais ce fromage, il a une origine, il vient de ce coin de pays-là. Puis en plus, le fromage du mois de mai, c'est pas le même que le fromage du mois de septembre. Parce que les vaches n'ont pas brouté la même herbe. Elles n'étaient pas à la même altitude. Des fois, elles ont commencé à 1300 mètres. Elles ont fini à 2000 mètres, sous les arbres ou même au-dessus des sapins. Donc, elles ne mangent pas la même chose. Donc, le lait n'a pas le même goût. Donc, le fromage sera différent. Et c'est ça qui mérite d'être raconté. En langage marketing, on appelle ça du storytelling. Mais c'est tellement beau.
Et ça doit être assez extraordinaire en tant qu'organisateur d'avoir un pays comme le Japon, par exemple. Est-ce que c'est le pays le plus exotique que vous avez pour ces championnats?
Je vais faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a aussi les États-Unis, par exemple. Alors, est-ce que les États-Unis sont exotiques? En ce moment, peut-être un petit peu. Il y a les États-Unis qui viennent, il y a le Canada. C'est la deuxième fois qu'ils viennent. Hein, le Canada était déjà présent la première année. On a des pays, de plus en plus. On a la Norvège qui sera là. 13 pays, hein, comme ça, peut-être un 14e, on verra. C'est juste formidable. La difficulté qu'on a, c'est arriver à faire venir suffisamment de fromage de ces pays-là pour permettre ensuite aux personnes qui viendront visiter l'événement. Parce qu'au-delà du concours, il y a une fête énorme qui se prépare là à Morgin à cette occasion-là. C'est avec, il y aura 150 fromages à raclette qui vont tourner en même temps. 150 fours à raclette qui seront là. Vous imaginez la vitesse à laquelle ça... On a relativement peu de fromages étrangers à faire déguster, mais tout ce qu'on aura, on le mettra à déguster pour les convives, pour les gens qui veulent essayer, pour comparer, pour voir ce qu'il en est.
Donc 24, 25, 26 à Morgin. Oui, Suzanne.
Au niveau des fleurs, hein, cher monsieur, vous avez les rhodos, vous avez les edelweiss, vous avez les tussillages, vous avez les boutons d'or, les narcisses, vous avez les jonquilles. Hein? Mais nous, vous croyez qu'on n'a pas des fleurs?
Chez vous, vous voulez dire? Mais j'ai aucun doute que si un fromage vaudois ou fribourgeois, en l'occurrence, veut concourir, il pourra le faire. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. L'année passée, c'est un fromage fribourgeois qui a pris une médaille dans la catégorie thermisée. C'est de s'en détendre, donc il y en a aussi.
Des fleurs et des animaux que l'on trouve aux Dents du Midi. On trouve des chamois, des marmottes, des bouquetins et tant d'autres. Aujourd'hui, Eliane, de quel animal allez-vous nous parler?
Le crocodile.
On vous retrouve juste après votre indicatif.
Dans la ménagerie d'Eliane.
C'est un reptile ancien de plus de 65 millions d'années qui fait partie de la famille des crocodiliens. Le crocodile a un museau long et pointu en forme de V. Il est très agressif et dangereux. Au bord des fleuves en Australie, les habitants ont l'habitude de le voir dans leur jardin et le chassent avec un râteau. Son corps allongé, sa queue puissante et une mâchoire extrêmement forte d'environ 8 ans de dents qui se renouvelle tout au long de sa vie. Pour dévorer sa proie, il tournoie rapidement sur lui-même en arrachant les chairs de l'animal. Pas lui, mais ce qu'il a capturé. Il mange environ 30 kilos de nourriture par jour. Il peut peser jusqu'à une tonne. De 3 à 6 mètres de long, il vit entre 70 et 100 ans. Petite particularité, il dort environ 17 heures par jour, tout en gardant toujours un œil ouvert. La femelle ne couve pas ses œufs, mais les surveille. Après 70 jours, les bébés cassent leur coquille grâce à une petite dent qui va tomber par la suite. Qu'y a-t-il de plus adorable qu'un crocodile transportant ses petits dans sa gueule? L'expression « les larmes de crocodile » est une manifestation émotionnelle fausse et hypocrite. Un petit clin d'œil pour vous demander si vous vous rappelez du film sorti en 1986.
Crocodile Dundee.
Bravo Marie-Claude.
Merci Eliane pour cette chronique où on apprend toujours quelque chose, notamment que le crocodile n'a vraisemblablement pas de problème de dentiste.
Ben si, ça faisait même pareil chez nous, ben il n'y aura plus de dentiste.
C'est ça. Un petit rapide tour de table à propos des animaux. Dricia.
Qu'est-ce que j'ai à dire ?
Autour des animaux.
Bah, les animaux, ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, j'ai 3 chats à la maison que j'aime beaucoup. J'ai ramené du Maroc ici. Et puis,
ils se sont bien acclimatés.
Oui, ils sont bien vaccinés. J'ai fait tout, les papiers, j'ai fait les passeports, j'ai fait tout. Et je les ai ramenés les 3. Et puis, j'adore les animaux, plutôt ma fille aussi, elle a 7 ans, c'était elle qui voulait comporter les chats. Et puis, je trouve qu'ils sont vraiment... Les animaux, c'est pour les humains, c'est quelque chose d'amis, quelque chose de... Je trouve que c'est magnifique, vraiment. Moi, les animaux, j'aime beaucoup.
C'est vrai. Eliane ?
Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vos chats sont petits, c'est-à-dire comme les chats tunisiens ?
C'est des petits, oui. C'est des petits. Ce sont des petits et ce n'est pas des grands que j'ai ramenés. C'est vraiment, ils sont tout petits, ils ne mangent que du lait. Et puis voilà, je trouve que c'est magnifique.
Irène, par rapport, on parlait des animaux, puisque la chronique d'Eliane portait sur les crocodiles. Alors je ne pense pas que vous ayez un crocodile chez vous, enfin je ne vous le souhaite pas. Est-ce que vous avez des animaux dans votre entourage ?
Non, alors moi je n'ai pas d'animaux, parce que je me dis, quand on a des animaux, il faut s'en occuper. Et quand on a des animaux, on ne peut pas quitter la maison comme on veut. Parce que s'il fallait demander à quelqu'un d'autre de s'occuper du chat, en général, les gens ils veulent pas s'occuper d'un chat de quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'adore les animaux, mais chez mes voisins.
On peut imaginer, Henri Piat, que lorsque vous êtes dans votre chalet, dans les Dents du Midi, que, évidemment, il y a plein d'animaux qui surgissent de part et d'autre, et notamment dans les airs, peut-être.
Alors, déjà en face, dans la montagne de Barmes, c'est une chose que mon papa m'a appris à faire, c'est à jumeler les animaux, les chamois, les bouquetins qui sont en face, qui sortent au moment du coucher du soleil, quand il fait un peu moins chaud. Alors, depuis tout petit, je les regardais avec les jumelles d'officier de mon papa. Bon, je dois quand même dire, c'est la période de la chasse actuellement, hein, que ce soit en Valais ou à Fribourg ou dans le canton de Vaud, c'est la période de la chasse. Et c'est le moment aussi. Et puis c'est aussi comme ça qu'on les voit, hein, ces animaux sauvages, mais de manière régulée. Et puis la partie aérienne, ouais, bah oui, évidemment. Ouais, Il y a tellement de belles choses, de beaux animaux à voir. Des aigles, on en voit ici. Hein. Des gypaètes, on en voit.
Oui, justement, j'allais vous parler des gypaètes barbus. Ouais, on ça en doit voit. Être extraordinaire d'en voir.
Hein. C'est rare, ouais. C'est rare et c'est gigantesque. Ouais. Le, bon, moi, j'aime spécialement beaucoup l'aigle parce qu'il est, il est tellement intense dans son vol et majestueux. Que... Puis quand vous allez dans les Dents du Midi, en règle générale, quasiment à coup sûr, vous en voyez un. Ouais.
Elvio ?
Oui, alors, l'automne dernier, on a eu la chance de voir une colonie de vautours fauves à la Dent de Valère. Donc, ils tournaient, ils prenaient les thermiques comme ça. On a eu de la chance. Enfin, on s'est dit, c'est quoi ces gros oiseaux ? C'est pas des gypaètes et tout ça. Et il y avait des ornithologues qui étaient là et ils nous ont dit oui, alors ça devient un passage maintenant du vautour fauve, en fait, la région des Dents du Midi. Ouais.
Mais alors, je recommande volontiers à toutes celles et ceux qui veulent se balader un peu d'aller maintenant, en ce moment, au col du Bretelet, c'est à côté, sur les hauts de Barmes, à côté du col de Coux. C'est un endroit qui est un lieu de passage connu et c'est une émanation de la station ornithologique de Sempach. En ce moment, des filets sont tendus à 15 ou 20 mètres de haut pour attraper les oiseaux qui passent, mais les attraper le plus doucement possible, les récupérer, vérifier leurs bagues s'ils en ont une ou les baguer s'ils n'en ont pas, puis les faire repartir avec pour une ambition évidemment de faire une statistique et un traçage de ces animaux. C'est un moment absolument extraordinaire à voir quand ils prennent ces petits oiseaux, qu'ils les sortent de leur petit sac dans lequel ils ont attendu patiemment d'être bagués. Je vous encourage vivement à aller voir ça. C'est beau et c'est poétique aussi. C'est incroyable. Oui, c'est une invitation au voyage.
Oui, tout à fait. Suzanne.
Ça, c'est pour les yeux. Mais un compagnon aussi merveilleux qu'une petite minette qui vous attend, qui vient vers vous, qui demande des caresses.
Qui ronronne
et qui vous fait jamais de mal, eh bien ça, c'est merveilleux.
C'est vrai. On arrive au terme de cette émission. Merci Henri-Pierre Galetti d'avoir trouvé une heure dans votre agenda très chargé pour venir partager avec nous votre passion de promouvoir les Dents du Midi et sa région. Dents du Midi qui sont donc à l'honneur de la Foire du Valais qui ouvre ses portes demain à Martigny. Vous trouverez toutes les informations sur le site foireduvalais.ch. Et bien évidemment, vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.pavillonnomade.ch où on a ouvert un chat d'ailleurs qui va fonctionner à partir d'aujourd'hui et sur les prochains jeudis. Pavillon Nomade se balade aussi et les prochaines sorties, il y en a deux. C'est mercredi 1er octobre entre 13h et 14h ici à Montet en collaboration avec la Maison du Monde. On va rejoindre les jeunes qui proposent des animations au kiosque au bord de la Vièze. Et vendredi 3, entre 17h et 18h également au kiosque avec l'association Pluriel. Venez donc nous rejoindre si vous êtes dans le coin. Ces émissions seront également en direct sur le site de Pavillon Nomade. Merci à vous toutes et tous qui étiez autour de cette table. Merci à nos complices Julien et Dominique. Julien qui d'ailleurs avec son groupe Doumno Yelbeck, je crois que je l'ai bien prononcé, se produit vendredi 3 octobre à 20h à l'espace Tribu, la Foire du Valais, au comptoir pour les plus anciens. On se quitte avec un duo de musiciens, Denis Tini au piano et Christopher Collins au saxophone ténor et ce titre, Les Dents du Midi.